la presse, une fois de plus, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes rassemblés ici ce matin dans le cadre de la conférence de presse qui marque l'avant de la célébration des 50 ans de l'Ordre national des Archives du Cameroun. Cet ordre professionnel qui fait partie des tout premiers ordres créés au Cameroun. Et l'objectif de notre rencontre ici aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter l'importance de cette célébration pour notre ordre professionnel, ainsi que parler des objectifs de notre profession. Sans plus tarder, le président de l'Ordre national des architectes du Cameroun, M. Jean-Christophe Ndongo, prendra la parole pour vous présenter de manière générale le cinquantenaire de l'Ordre national des architectes. Et puis nous serons ouverts à répondre à toutes vos questions, parce que l'objectif, c'est qu'à travers vous, la presse, que nous puissions relayer au plus grand lieu les informations au sujet de cette célébration. Monsieur le Président.
Ok, merci Flore. Bonjour à tous, merci de votre présence, merci à la presse, parce qu'on compte vraiment pour vous pour que ce relais soit efficace. Donc nous sommes ici pour parler du cinquantenaire de l'Ordre national des architectes du Cameroun, qui aura lieu du 5 au 10 mai 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ordre, donc, on fête 50 ans, parce que les textes qui régissent l'Ordre national des architectes du Cameroun ont été élaborés en 1975, en décembre 1975. Donc 50 ans après, en 2025, nous allons fêter 50 ans. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que l'ordre existe avant. Le premier architecte diplômé, le premier Camerounais, pardon, diplômé en architecture, l'a été en 1958 ou 1959. En fait, il est rentré au Cameroun en 1959. Et dès 1962, des architectes, trois architectes, M. Sanga Akwa, M. Bébé Black et M. Salomon, créent l'ordre du Cameroun. Donc l'ordre existe depuis 1962, mais les textes, eux, ont été faits en 1975. C'est un anniversaire donc hautement symbolique. Et vous savez qu'actuellement, pour ceux qui étaient là lors de la dernière conférence de presse que j'ai faite en novembre, l'Ordre national des architectes du Cameroun est vraiment dans des combats, et le mot est pesé, dans des combats pour que les architectes trouvent toute la place qui est la leur dans le paysage camerounais. Nous avons vécu un certain nombre de j'ai envie de dire, d'épisodes un peu dramatiques, où il y a même eu certains morts avec des effondrements de bâtiments. On le voit aujourd'hui avec le paysage, c'est plus exacerbé, parce que vous voyez tout ce qui est, on le voit avec les déchets. Donc la place de l'architecte est indispensable, doit être au cœur de la vie et de la ville et de nos villes. Donc l'ONAC, de par son statut, a un rôle très très important à jouer. Et pendant cette semaine anniversaire, qui est placée sous le thème bilan, défis et perspectives, nous espérons avoir un public très important. Notamment, on sait que vous serez présents les journalistes, notamment les pouvoirs publics. On espère qu'ils seront là, parce que les pouvoirs publics sont les décideurs. Nous espérons avoir également des civils pour leur expliquer le rôle de l'architecte. Qu'est-ce qu'un architecte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir architecte? Combien coûte un architecte? Parce que les personnes pensent à tort que les architectes sont chers. Et nous espérons également avoir beaucoup d'étudiants et d'élèves pour les intéresser à cette profession. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Le 5 mai, il y aura une journée, la cérémonie d'ouverture. Et le 5 mai, qui est un lundi, le lundi 5 mai, il se trouve que c'est également la journée mondiale du patrimoine africain. Donc on va continuer avec une journée sur le patrimoine qui va se continuer le mardi. Le mardi, il va y avoir donc cette journée sur le patrimoine. Et ensuite, il va y avoir des conférences, des séminaires, des échanges B2B, avec un certain nombre de conférenciers du Cameroun et qui viendront également d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Donc ça va se passer jusqu'au vendredi. Le mercredi matin, il y a une journée qui est consacrée à l'Italie, où il y a des entreprises italiennes qui seront là pour avoir des B2B avec des Camerounais, présenter leur savoir-faire. Le samedi 10 mai, au matin, il y aura la prestation de serment de 165 nouveaux architectes. Et le samedi 10 mai toujours, en soirée, il y aura une soirée où nous allons remettre des awards. Nous avons décidé d'honorer nos architectes, d'honorer 50 ans. Donc 50 premiers architectes seront honorés par la remise de awards et également les anciens présidents de l'Ordre, les anciens présidents de l'Assemblée Générale, le premier architecte diplômé, Camerounais diplômé en architecture et la première femme inscrite à l'Ordre. Donc voilà en gros comment va se dérouler cette semaine de l'architecture, cette semaine du 50e anniversaire de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Voilà, donc je suis maintenant ouvert à toutes vos questions auxquelles je serai très heureux de répondre.
Merci, Président. Avant de passer à la séance des questions-réponses, juste un petit élément de détail sur l'historique. D'accord. Parce que pour les journalistes, c'est très important. Vous voyez bien, on parle de 50 ans de célébration. On commence à 1975. Mais il est important de dire que l'Ordre national des architectes du Cameroun fait partie, ou alors je crois que c'est le premier ordre professionnel créé au Cameroun, parce que depuis 1962, on a déjà les trois premiers qui sont inscrits au tableau de l'ordre. Mais il faut également dire qu'avant 1962, justement, il y a une loi qui existe déjà au Cameroun, ou alors qui régit déjà la profession d'architecte au Cameroun, une loi sur l'exercice de la profession d'architecte qui date de 1947, et cette loi s'applique au territoire français d'outre-mer, dont faisait partie le Cameroun. Et à partir de 1962, les premiers architectes qui vont donc commencer, à partir de 59, quand Mokolumo les rentre au Cameroun, ils commencent déjà à stimuler les autres architectes à revenir. Et à partir de 62, on a donc ces trois premiers. Mais il faut dire que cette loi qui circule déjà, ou alors les textes qui circulent déjà, vont impacter plusieurs pays africains, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et même le Tchad, qui a créé son ordre, je crois que c'était en 2012, en fait, après 2010, s'est inspiré de la loi camerounaise. Donc, au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique de manière générale, l'ordre va beaucoup redynamiser les ordres professionnels. Pour preuve, c'est l'Ordre national des architectes du Cameroun qui va organiser le tout premier congrès de l'UAA du 15 au 20 octobre 1984 au palais des congrès de Yaoundé. Donc, et nous avons également au sein de notre ordre plusieurs personnes qui ont impacté, qui ont été... On a le confrère Jean-Jacques Otto qui a été président de l'Union des architectes d'Afrique et plusieurs comme ça vont intervenir de part et d'autre. Mais un autre point aussi qu'il est important de relever ici, c'est comment est-ce que l'ordre a évolué entre-temps. On n'a pas connu que des bons moments parce qu'à partir de 1975, oui, c'est l'heure de la gloire si on veut le dire ainsi. On est sous la Première République et il y a beaucoup de dynamisme. On a une économie florissante. Seulement, à partir de 1985-86, on fait face à la crise mondiale. Et en 1987, il y a le projet, le programme d'ajustement structurel qui vont complètement affecter la vie de l'ordre. Et en ce moment, plusieurs architectes vont retourner pour certains dans les plantations, d'autres vont aller à l'extérieur pour se chercher parce qu'il n'y a plus de marché. Et quand on regarde au niveau du paysage urbain, ça a vraiment impacté le paysage urbain. Parce que si vous prenez l'exemple de ce que nous appelons aujourd'hui le boulevard du 20 mai, c'était appelé l'avenue de l'ancienne gare. Et il y avait plusieurs projets qui étaient prévus là-bas. Toutes les banques étaient obligées de venir construire leur siège à Yaoundé. Mais la crise économique va impacter et on va arrêter tous ces projets. Donc l'ordre va chercher justement à se démarquer, à s'en sortir. C'est comme ça qu'il doit y avoir plusieurs correspondances entre l'Ordre national des architectes et les administrations. Et on va aboutir à la loi de 90, qui ne va plus parler seulement de l'organisation de la profession, mais de l'organisation et de l'exercice de la profession. Donc, ça va aller ainsi jusqu'à ce qu'à partir des années de 2009, on a des nouvelles écoles qui arrivent. Et avec la venue des nouvelles écoles, l'ordre se trouve face à une situation inattendue parce qu'à partir de 2015, les premiers sortent des écoles, il faut les inscrire et les tout premiers formés au Cameroun vont être inscrits en 2021. Donc, vous voyez, voilà comment un peu l'ordre a subi, ou alors l'ordre s'est déployé de part et d'autre, avec aussi sur le plan des nouvelles technologies, on va faire face à certaines choses qui vont impacter d'une manière directe ou indirecte la vie de l'ordre. Donc, pour nous aujourd'hui, célébrer 50 ans, c'est revenir aussi sur cette histoire, parce que c'est un point important, il faut voir d'où on vient, comment est-ce qu'on a vécu les 50 années, et comment on se projette dans les 50 années à venir.
Merci beaucoup, Flore, qui, je le rappelle, est titulaire chargée et conseillère, titulaire chargée des questions de communication, relations publiques, marketing et site web. Je pense que ce rappel était très important. Nous sommes maintenant ouverts à vos questions sous la direction de Flore.
Vous vous présentez, vous nous dites à quel média vous appartenez et puis votre question. Oui, monsieur. Oui.
Merci, je suis Bertrand Tiani, je travaille pour le journal en ligne 237 Info.net. Monsieur le président de l'ordre, ma question c'est de savoir à qui la faute lorsqu'on sait que l'architecte au Cameroun n'est pas suffisamment pris au sérieux ou à leur rencontre dans les politiques publiques d'urbanisation des villes. Est-ce que c'est à vous la faute? Est-ce que c'est au pouvoir public lorsqu'on sait qu'il y a des textes qui régissent votre corporation? Merci.
Ok. Je réponds à cette question. Ok. Merci de cette question qui est très importante. Alors, comme vous l'avez dit, il y a un texte qui date de 1975 et qui a été repris en 1990 sur l'organisation de la profession d'architecte au Cameroun. Et ce texte dit clairement article 1, alinéa 2, que nul ne peut exercer la profession d'architecte s'il n'est inscrit à l'Ordre national des architectes du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque mission d'architecture, on doit faire appel à un architecte. Or, aujourd'hui, on se rend compte que les pouvoirs publics, si vous regardez bien les appels d'offres, où on parle d'études architecturales et techniques, on interroge encore des BET sans interroger des architectes. Et quand je parlais de combat au début, c'est de ça dont il s'agissait, entre autres. Parce que chaque fois qu'il est fait, j'écris à ce pouvoir public en lui disant qu'il ne respecte pas la loi. Bon, on a un combat permanent. Donc, la place de l'architecte est méconnue. C'est très difficile de dire c'est de la faute de tel ou tel. Pourquoi ? Parce que, comme l'a rappelé Flore, les écoles d'architecture au Cameroun sont assez récentes, de 2009. Ça veut dire qu'avant, tous les architectes faisaient leurs études à l'étranger. Donc, nous étions très peu au tableau de l'ordre. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 450 inscrits au tableau de l'ordre, pendant que les ingénieurs sont 5000. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des écoles d'ingénierie. D'accord ? Il y avait des écoles d'ingénierie au Cameroun, donc beaucoup d'ingénieurs dans les différents pouvoirs publics qui, j'ai envie de dire, sans vouloir les incriminer, faisaient un peu les appels d'offres à leur sauce. Et aujourd'hui, il se trouve que dans l'imaginaire collectif, certaines personnes ne connaissent pas l'architecte, certaines personnes pensent que l'architecte et l'ingénieur, c'est la même chose, et on forme des architectes camerounais, mais on leur donne pas de travail. Donc, moi, j'ai envie de dire, pour répondre à votre question, que, en tout cas, ce n'est pas la faute des architectes, mais que les architectes se battent pour retrouver ce pouvoir qui est le leur, cette place qui est la leur et qu'on doit leur donner.
Oui, monsieur Marcel. Merci, bonjour à tous. Marcel et Marcel de Quinos. Ma question, c'est un peu dans le prolongement de celle de mon confrère. 50 ans, c'est aussi l'occasion un peu de faire une sorte de remise en cause, de remise en question. Lorsque vous voyez un peu l'architecture, justement, de nos villes, je parle le cas des Yaoundé, avec des bidonvilles partout, dans les quartiers qui ne sont pas accessibles, qui sont dans les zones d'insécurité. Vous, à votre niveau, vous vous dites, quelle est votre part de responsabilité? Première question. Deuxième question, vous avez lancé, depuis que vous êtes là, sous votre magistère, une opération, je vais dire quoi, d'assainissement, qui consiste à l'ordre, ou bien pour l'ordre, à se regarder dans un miroir et à parler devant sa propre cour. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec cette opération? Vous avez réussi quand même un peu à tirer les oreilles de ceux qui vont à contre-courant la légalité, puisque pour exercer, pour être membre de l'ordre, et il y en a qui, justement, jusqu'aujourd'hui, naviguent à contre-courant de ce que vous recherchez. Voilà mes deux petites questions. Merci.
Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que l'architecte répond à une commande, d'accord ? L'architecte répond à une commande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une décision politique qui va lancer un appel d'offres, qu'il va dire, OK, voilà comment est-ce qu'on va faire les villes. Et maintenant, messieurs et mesdames les architectes, on lance un appel d'offres, vous y répondez. Et c'est comme ça que ça se passe, normalement. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'ordre, nous nous sommes dit que nous devons aller au-delà de ça. Nous ne devons plus attendre que les pouvoirs publics nous disent voilà ce qu'il faut faire, nous devons faire des propositions. C'est pour ça que nous sommes en train de signer une convention avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, pour pouvoir justement leur faire des propositions dans certains quartiers et ne plus attendre que les pouvoirs publics lancent un appel d'offres sur tel ou tel projet, mais qui ne respectent pas un environnement global. Donc, effectivement, les architectes ont certainement une part de responsabilité, mais qui, comme je vous le dis, aujourd'hui, nous voulons aller au-delà, ne plus attendre la commande, faire des propositions concrètes au pouvoir public en leur disant que dans tel quartier, où par exemple il y a des bidonvilles, voilà ce qu'on peut faire, quel type de logement, voilà les populations qui sont, on peut les loger ailleurs, et voilà le type de logement qu'on peut faire ailleurs pour développer tel ou tel quartier. Donc ça, nous sommes en train d'y travailler. Il y a une convention qui est déjà prête, qui est sur la table de Madame le ministre et qui va être signée dans les jours qui viennent. Maintenant, pour la deuxième question, vous parlez de l'exercice illégal. Et c'est vrai qu'on voit certaines personnes ont pignon sur rue et ne sont pas architectes, mais disent... voilà, nous sommes architectes, nous faisons telle chose, on vend des plans à telle ou telle chose. Et c'est vrai que nous avons pris le taureau par les cornes. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons envoyé, dès que nous sommes au courant, nous envoyons des sommations à ces personnes-là de nous présenter en leur appelant la loi, en leur demandant de nous présenter sous 48 heures leur attestation d'inscription à l'ordre, puisque comme je vous le dis, la loi l'exige, et leur diplôme d'architecte. Et à partir du moment où elles ne l'ont pas fait, nous attaquons, nous avons un avocat et nous attaquons en justice. Donc, à l'heure où je vous parle, nous avons porté plainte contre un certain nombre de personnes qui exercent, qui usurpent le titre d'architecte.
Je voudrais apporter juste un petit élément, des détails, pour dire que les statistiques nous font savoir qu'au Cameroun, on a un architecte pour 100 000 Camerounais. Donc, quand on a un architecte pour 100 000 Camerounais, vous comprenez que ce n'est pas facile pour les architectes de pouvoir couvrir tout le territoire. Et c'est un vrai problème. Si on revient demander à qui la faute, je dirais les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées et il y a un vrai problème, besoin d'éducation. Il faut éduquer la masse sur le rôle de l'architecte. Ailleurs, peut-être ça se fait. Depuis l'école primaire, il y a des choses qui peuvent être initiées. Moi, par exemple, je suis à l'école d'architecture, je n'avais jamais entendu le mot architecte. C'est quand on lance le concours, et même dans les écoles aujourd'hui, vous demandez aux étudiants, vous disent que c'est mon père qui m'a envoyé, je ne connaissais pas ce que c'est que l'architecture, je n'avais jamais vu un architecte. Heureusement, on a les écoles, vous comprenez, là, on va inscrire au moins 150 le 10 mai prochain. Mais il y a de cela quelques années en arrière, on pouvait faire peut-être 2 ans sans faire d'inscription, ou alors faire l'inscription peut-être pour 1 ou 2 personnes. Donc nous imaginons que dans les années à venir, on pourra progressivement combler le vide et que dans les quartiers, de plus en plus, que les gens comprennent que même quand je vais acheter mon terrain, j'ai besoin de l'expertise d'un architecte. Parce que nous avons l'habitude de dire l'architecte est le médecin de la société. La société ne saurait faire sans les architectes. Oui, monsieur.
Oui, je suis Arnaud Bob, correspondant au Cameroun du site d'information Kwasi, directeur de publication du journal Transition. Quels sont les principaux défis et les principales réalisations de l'Ordre des architectes au cours des dernières 50 années? Et quelle est la vision de l'Ordre pour les décennies futures?
Alors, merci de cette question. Alors, le bilan, vous pouvez faire un bilan qui sera vraiment détaillé pendant ce cinquantenaire. Mais c'est vrai qu'il y a déjà ce que nous avons fait pendant 50 ans. Nous avons déjà par cette loi, nous avons structuré, l'ordre était structuré, nous avons accueilli des architectes, nous avons régulé la profession, mais c'est vrai que ce n'est pas encore assez. Nous menons des combats, comme je l'ai dit, et comme l'a rappelé Flore également, par rapport à l'exercice illégal. Et je tiens quand même à rappeler que l'exercice illégal, c'est du pénal, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Donc, toutes les personnes qui exercent illégalement sont passibles d'aller en prison. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce bilan, cette construction, comme on l'a dit, il y a toute une histoire, comme l'a rappelé Flore, de l'ordre, avec l'ordre qui existait depuis les années 62, même si les textes existaient depuis les années 1947. Après, il y a eu 1980, cette crise économique. On était régi avant, il y avait un ministère qui s'appelait le ministère d'équipement, qui gérait tous les bâtiments publics. Et c'était l'âge d'or, parce que les architectes avaient des honoraires très importants à la juste valeur du travail qu'ils faisaient. C'est peut-être pour ça que dans l'imaginaire collectif, on s'est dit que les architectes coûtent cher. Donc il y a tout ce travail qui était fait par l'ordre. Il y a un bilan qui sera exhaustif, et je vous invite à venir donc, pendant le cinquantenaire. Il y a des groupes, des ateliers qui sont faits par rapport à ça. Et maintenant, pour les perspectives des 50 années à venir, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est déjà un ordre fort. Un ordre fort, ça veut dire que des architectes forts, c'est-à-dire que des architectes qui soient reconnus, des architectes qui sont partout dans les différentes structures, des architectes qui font leur travail d'architecte parce qu'on les consulte, et des architectes qui font également le travail de conseiller pour qu'on améliore nos villes. Parce que la première chose que l'on dit, moi je n'ai même pas envie d'aller dans les autres pays occidentaux, mais quand on va dans les autres pays africains, j'étais au Sénégal le mois dernier, quand vous êtes au Sénégal, vous voyez qu'il y a, on confie aux architectes des projets, des villes nouvelles, des quartiers nouveaux, et même je pense que vous, quand vous voyez une maison faite par un architecte, vous le sentez, que là on est passé, c'est un architecte qui a forcément fait ça. Et quand ce n'est pas un architecte, c'est du bâtiment. Et j'aimerais revenir sur un aspect qui a beaucoup changé également les choses, c'est l'arrivée de l'informatique. Parce qu'avant l'informatique, on dessinait à la main. Et il n'y avait que les architectes qui dessinaient à la main. D'accord ? Les architectes dessinaient à la main, les ingénieurs faisaient leur travail d'ingénieur. Avec l'arrivée de l'informatique, beaucoup de personnes se sont dit, finalement, je peux faire un plan. Mais un plan, ce n'est pas de l'architecture. Nous faisons de l'architecture, nous ne faisons pas des plans. Et maintenant, avec l'arrivée également maintenant de l'IA, ça va encore être autre chose. Vous voyez un peu ? Donc, je pense qu'il y a eu tous ces bouleversements auxquels nous adaptons, les architectes, mais auxquels certains s'engouffrent pour dire « je suis architecte ». Mais quand quelqu'un veut être architecte, qu'il fasse une école d'architecture, c'est 5 années. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on voit dans les 50 ans ? Moi, je vois un ordre vraiment structuré. Je vois un ordre structuré. Je vois un ordre où les architectes font leur travail d'architecte. Je vois un ordre où il y aura moins encore d'exercice illégal de la profession, où les honoraires seront payés à leur juste valeur, parce que là également c'est un problème, où l'ordre aura une reconnaissance également vis-à-vis des pouvoirs publics. Parce que, comme vous pouvez le constater, lorsqu'un bâtiment est construit, on a inauguré il n'y a pas très longtemps le siège du Conseil économique et social, qui a été fait par l'architecte Phobi Tshinda. Mais on ne l'a jamais cité. On ne l'a jamais cité. L'ordre n'est même pas invité. Lorsqu'il y a des bâtiments, on va parler, parce que vous les journalistes, et c'est vrai qu'on doit également vous éduquer par rapport à ça. Vous avez deux termes, joyeux architectural et bâtiment futuriste. Voilà. Même quand le bâtiment n'est pas futuriste et même quand ce n'est pas un joyeux architectural. Dès qu'un bâtiment est neuf, vous dites ça.
Donc, l'architecte était là ce jour.
Non, l'architecte était là, mais on ne lui a pas donné la parole.
Si, il a fait une interview.
Oui, il a fait une interview, mais il n'a pas fait un discours. D'accord ? Et c'est très rare. Moi, par exemple, j'ai fait le bâtiment, excusez-moi de parler de moi, hein, j'ai fait le bâtiment de la mairie de Yaoundé 7, et le maire a insisté pour que je sois dans les personnes qui discourent. Et c'était, au départ, on a dit non, on a dit le DG du FECOM, enfin le maire de Yaoundé 7, le DG du FECOM, le ministre de la décentralisation. Vous voyez ? Et c'était une bataille, il a dit non, c'est l'architecte qui a fait ce projet-là. Ailleurs, l'architecte est reconnu. Et nous, on a encore cette difficulté. Oui, un peu. Donc, c'est ça également. L'ordre doit faire en sorte qu'on reconnaisse les architectes. D'accord ? Quand il y a un bâtiment, parce que quand il y a un bâtiment comme celui-là, il sort de l'imagination de quelqu'un, il est parti d'une feuille blanche. Il sort de l'imagination. Avec son équipe, il a travaillé des jours et des nuits en faisant les différentes étapes pour sortir ce bâtiment. Et là, sur le coup, vous pouvez employer la formule de joyeux architectural parce que c'est vraiment un joyeux architectural. Donc, on ne veut pas vous en vouloir pour ça.
En passant, il y a un dossier de presse qui circule, donc vous pourrez avoir toutes les informations.
Merci, je suis avec Patrick Léa. 50 ans, c'est un demi-siècle. mais dans la suite de ce que vous avez dit, parlant de cet architecte qui n'a pas été assez mis en exergue et qui a fait le bâtiment du Conseil économique et social, vous demandez à l'occasion de ces 50 ans, est-ce que vous pouvez nous faire ne serait-ce qu'un bref aperçu de ce qu'on peut considérer comme étant le fleuron des architectes camerounais dans notre patrimoine architectural aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait votre fierté lorsque nous qui ne sommes pas des étiers et qui passons partout, on voit des états de réalisation, qu'est-ce qui est fait par les Camerounais et dont on peut se vanter aujourd'hui en tant qu'expertise camerounaise en matière d'architecture?
Alors, c'est prévu. C'est prévu justement que l'on va parler des architectes, on va parler des bâtiments emblématiques, parce qu'il y a quand même certains bâtiments emblématiques, et puis on va mettre un nom derrière ces bâtiments. Vous savez, à une certaine époque, dans certains autres pays, quand vous faisiez un bâtiment, vous le signiez dans le béton, il y a le nom de l'architecte, d'accord? Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à ça. Il faut que les architectes signent leurs œuvres, parce que ce sont nos œuvres, d'accord? Il faudrait que les architectes signent leurs œuvres et qu'on revienne à cette inscription quelque part. Et on va parler de ça, s'il est prévu, justement, de parler d'un certain nombre de bâtiments emblématiques, de certains architectes, des architectes qui les ont faits. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant les bâtiments et évidemment les architectes qui les ont dessinés. Pardon ?
Quelque chose déjà pour que...
Il faut que vous ayez envie de venir. Ok, très bien. Je vais donner la parole à Flore, qui, je dois le dire, travaille beaucoup sur le patrimoine. D'accord ? Elle travaille beaucoup sur le patrimoine. Donc, elle va vous dire... parce que moi, j'ai peur de dire certains noms et que mes confrères me disent après, oui, vous n'avez pas... Pourquoi tu as cité tel ? Pourquoi tu ne m'as pas cité ? Donc, c'est vraiment très délicat. Mais en deux mots, Flore, si tu peux donner juste un avant-goût de cela.
Je trouve le patrimoine, la grosse difficulté qu'on a justement, c'est que ces bâtiments n'ont pas... en fait, il y a encore un gros travail à faire derrière pour savoir effectivement qui a fait quoi au Cameroun. Donc si je vais citer un peu, on a l'immeuble éducation qui a été fait par le premier architecte, Enso Dabo de Lord Sangéa Kwa et Douala Bell. On a la gare de Douala Bessengue, on a l'aéroport de Douala, Royal Hotel de Yaoundé qui a été fait par le numéro 2 au tableau de l'ordre, Bébé Black. On a l'immeuble de Mille Santé, l'immeuble SNI, l'immeuble Tebela qui a été fait par la CEDA, c'était une société qui travaillait, où on recrutait les architectes quand ils revenaient du Cameroun. On a effectivement le bâtiment qui vient d'être cité, le siège du Conseil économique et social. On a la cité Sonara à Limbé, la maison de parti de Bafoussam.
C'est par qui?
J'ai préféré ne pas citer les architectes parce qu'il y a un autre travail, un gros travail encore à faire derrière. Il a demandé un avant-goût. Voilà. On donne justement l'avant-goût et puis rendez-vous pour 50 ans.
Voilà. Il faut lui manger un peu.
Marguerite Mollal, du journal La Concorde. J'ai une question toute simple et un peu plus concrète en fait. Votre ministère va organiser dans quelques jours les états généraux de la gestion des déchets.
Notre ministère de tutelle.
Votre ministère de tutelle, voilà, ministère de tutelle. Et comme on dit états généraux, ça veut dire que toutes les parties sont conviées à apporter leurs propositions. Qu'est-ce que l'ONAC prévoit apporter comme contribution dans ce grand rassemblement-là pour qu'on ait plus l'état d'immondices?
Alors, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet important parce que tout le monde, quel que soit le quartier à Yaoundé dans lequel on est, tout le monde subit cela. Donc, il y a des propositions concrètes qui vont être faites par les architectes sur lesquelles on discute encore. Donc, vous me permettrez de réserver la primeur parce que tout n'a pas été validé. Donc, vous me permettrez de réserver la primeur de nos propositions à notre tutelle, aux états généraux, et puis parce que certaines propositions seront acceptées, d'autres non, donc je préfère ne pas en dire plus sur le sujet, mais sachez que c'est quand même quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Les architectes dessinent les villes, d'accord, et on prend tout en considération. Comment est-ce qu'on gère les déchets, comment est-ce qu'on traverse les villes, comment est-ce que le piéton marche dans une ville. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de déchets. C'est vrai, parce que c'est le problème actuel. Mais il y a un autre problème que les gens ne citent jamais, c'est comment est-ce que les piétons marchent dans une ville. Aujourd'hui, vous avez quand même vu que dans le centre-ville de Yaoundé, tous les trottoirs sont devenus des places de parking. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle nous nous insurgeons. Les personnes qui marchent à pied ne marchent pas par choix. On est d'accord. Les personnes qui marchent à pied marchent parce qu'elles n'ont pas, malheureusement, les moyens de s'acheter une voiture. Mais aujourd'hui, il est très difficile de circuler parce que, justement, les trottoirs sont devenus des parkings. Pourquoi ? Parce que, justement, les immeubles de bureaux n'ont pas pris en compte les normes pour avoir les normes qu'ils ont aujourd'hui. Il faut une place de parking pour 25 mètres carrés de bureau. D'accord ? Et c'est un problème global. On parle des déchets, c'est un problème global qui est en même temps les déchets, qui sont les places vertes, les places de circulation piétons, les espaces verts, les arbres, bref, comment est-ce que doit être une ville moderne aujourd'hui? Quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte? Et c'est vrai que les déchets, les évacuer, aujourd'hui on les transforme. Dans beaucoup de villes on les transforme, les déchets, j'ai envie de dire, c'est une richesse, parce qu'on les transforme et puis on en fait différentes choses qui font partie de l'économie globale d'un pays. Donc on réfléchit effectivement là-dessus. Et donc, en temps voulu, vous aurez nos différentes propositions.
Good morning to everyone. I'm Patience Shintung, journalist at Info TV. I'm not going very far from his question, but I have a preoccupation here. Waste management, but now I'm coming to drainages. In most neighborhoods in Yaoundé, you observe that we have sewage waste draining on streets. What are you doing as a body that has to look into this in the country? Or what are you going to propose? Or what are you proposing already? Because it is becoming an environmental hazard.
Okay. As I told to the previous journalist, actually, we are working on it, okay? We are going to give some proposals to our ministry, okay? And we are going to wait that all those proposals to be validated by the ministry. But during during our anniversary, we'll have an entire...
Workshop.
We'll have an entire workshop on this subject. So I invite you to be there and to follow what we are going to say about this subject, very important subject.
Deux dernières questions. Oui, madame.
Bonjour, je suis Annette Mignacour, au journal en ligne, on va le prendre. Je voudrais savoir combien d'architectes sont actuellement inscrits.
423.
423.
Et j'ai 62 francs.
Ça veut dire 400.
23.
Les femmes sont
61.
Oui, nous n'avons pas encore de transgenres. Non, mais sa question est très, sa question est légitime. Sa question est très légitime. Nous n'avons pas encore de transgenres à l'ordre. Il n'y a que des hommes et des femmes déclarés. S'il vous plaît. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui exercent illégalement ne sont pas des architectes. Les architectes peuvent exercer illégalement, oui. Mais la majorité des personnes qui exercent illégalement ne sont pas architectes, d'accord? Ce sont des personnes qui décident qu'un jour, voilà, je veux faire un plan, c'est un... Et puis voilà, ils n'ont ni le diplôme d'architecte, ni évidemment ne sont donc pas inscrits à l'ordre. Alors maintenant, moi j'aimerais reparler de cette prestation de serment. C'est quelque chose qui nous a vraiment tenu à cœur. Quand nous sommes devenus architectes, pourquoi? Parce que nous avions constaté que c'est un levier également que nous devions actionner pour faire connaître les architectes. On s'était rendu compte que les autres professions, les avocats, les médecins, quand ils prêtaient serment de manière solennelle. Et moi, je pensais que c'était quelque chose qui était vraiment très important de prêter serment de manière solennelle, de faire une assemblée générale extraordinaire avec comme seul point à l'ordre du jour la prestation de serment. On l'a fait la première fois le 21 juin 2024 au conseil régional du centre. Et c'était quelque chose qui s'est très bien passé. Les médias étaient là, notre ministre était là, vous étiez très nombreux. Et ça, c'est quelque chose qui montre aux personnes, voilà des architectes qui sortent et qui permettent qu'on se pose la question. Donc c'est un des leviers sur lesquels nous appuyons pour, au-delà du fait de se dire que des personnes ont passé cinq années d'études dans des écoles, deux années de stage dans des cabinets qui exercent en clientèle privée ou bien dans l'administration, et qu'elles sortent, elles doivent sortir de manière solennelle avec votre présence, parce que c'est vous qui allez relayer justement ce qui se passe et qui permet justement à la population de savoir, voilà, les architectes sortent, et de se poser la question sur peut-être qu'est-ce qu'un architecte.
Juste pour vous rappeler quelques données statistiques, le nombre d'architectes inscrits au tableau de l'ordre depuis 1962, on a 663. Le nombre d'architectes en activité en 2024, ça fait 423. Le pourcentage de femmes inscrites en 2024, ça fait 14,42%. Et puis, le nombre d'architectes récipiendaires, ça, c'est ceux qui ont prêté serment, vous le savez déjà, 165. Le nombre de cabinets d'architecture en 2025, 81. Monsieur. Non, vous.
Là, j'ai pris la parole.
Vous.
Ok. Bonjour à tous. Fabrice Beloco, c'est mon nom. Je travaille pour Défi Actuel. J'ai.
Bonjour.
Si j'ai. Une question à double volet. Mmh. Nous parlons de plus en plus, quand on parle global, d'une transition énergétique, on parle durable, et également les constructions doivent également migrer, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Quelle est la place qui va occuper ce thème, c'est-à-dire l'ONAC ses 50 ans et la durabilité dans la célébration de ces 50 ans? Le thème sera trouvé parce que depuis, je n'entends pas parler de construction durable pendant cette rencontre. Et également, vous avez évoqué, vous avez survolé le sujet, l'IA. Quelle est la place va désormais occuper l'IA dans l'exercice de vos fonctions, notamment si vous êtes des professionnels? Quelle est la place que l'IA va utiliser? N'influence-t-il telle votre fonction? Les architectes n'ont plus peur d'exercer parce que l'IA est fait pratiquement tout.
Je vais mettre un bémol là-dessus.
J'ai dit pratiquement tout.
Justement, c'est le pratiquement qui me gêne. La première question, tout ce qui est durable va occuper une grande part dans le cinquantenaire. Et les architectes camerounais sont déjà très, très sensibilisés à ce problème-là. Nous avons invité la fondation Jacques Rougerie. La fondation Jacques Rougerie, c'est une fondation justement qui a été créée par un architecte français, Jacques Rougerie, qui est académicien français et qui lutte contre les dérèglements liés, enfin contre les problèmes liés justement au dérèglement climatique. Et quand je dis que les architectes camerounais sont sensibilisés à ça, c'est qu'en fait, ils organisent chaque année des concours à travers le monde. Où il y a des milliers de candidats et des Camerounais ont été souvent lauréats en proposant justement des maisons durables parce qu'en fait il fait des projets sur terre, sur l'eau et même dans l'espace. Et plusieurs Camerounais, notamment dernièrement, qui ne sont pas encore architectes, qui sont étudiants, ont été lauréats. Donc c'est quelque chose qui sera au cœur de notre cinquantenaire, peut-être pas au cœur, mais qui aura une place importante. D'accord. Il y aura notamment avec une après-midi qui sera consacrée aux ambassadeurs de cette fondation-là, qui viennent de beaucoup de pays du monde et qui vont parler de ce thème-là. Et ça me permet justement de rebondir par rapport à ça pour dire que on nous demande de faire de l'architecture autrement, et ce qui est normal. Mais pour faire de l'architecture autrement, il faut faire des programmes autrement. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, parce que là je parle dans tout ce qui est public, hein, privé c'est différent, on doit faire des programmes autrement, des TDR si vous voulez. Les TDR doivent être faits différemment, parce que comme je vous l'ai dit, nous répondons à des programmes. Donc les TDR doivent être faits différemment pour qu'on puisse faire de l'architecture différemment. Il faut qu'on arrête de faire du copier-coller. Et pour que les programmes soient faits différemment, il faut qu'on inclue les architectes dès le départ. Parce que malheureusement, beaucoup de programmes sont faits sans techniciens, beaucoup de TDR sont faits sans techniciens. On prend ce qui existait avant, on fait un copier-coller, et puis après on nous donne ça, et il y a tellement d'incohérences quand on fait un projet public, il y a tellement d'incohérences dans ce qui est demandé. Donc faisons des choses, incluons les architectes même, qui peuvent être au-delà de maître d'œuvre, peuvent être également assistants à la maîtrise d'ouvrage. Évidemment, ça a un coût. Mais quand vous allez dans les autres pays, on s'extasie devant les beaux bâtiments. Mais ça a un coût. Ça a un coût déjà au niveau de la programmation, parce qu'il y a des personnes dont c'est le métier, programmer des TDR. Ce sont des vrais métiers, programmer des TDR, et ensuite faire les études, et ensuite construire. D'accord ? Mais nous, on nous dit, il n'y a qu'à voir l'état de nos ministères. Moi, je travaille dans une commission actuellement pour donner quel doit être le coût d'un bâtiment public. Mais aujourd'hui, on se rend compte que quand aller dans nos ministères, c'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, non, c'est cher. Ce sont nos bâtiments publics. Ce sont ce qu'on appelle, ça devrait être ce qu'on appelle les palais de la République. D'accord ? Donc, je pense qu'il faut qu'on associe déjà les architectes dès la programmation de ce qui doit être fait pour que d'autres architectes, après, puissent donc faire cette architecture différemment et donc prendre en compte tout ce qui est architecture durable. Maintenant, pour votre deuxième question qui concernait l'IA, c'est très difficile pour moi de vous répondre quelle sera, parce que ça dépend maintenant de chaque cabinet. D'accord ? Il y en a qui vont le faire, mais quand vous dites ça fait tout, non. Quand vous faites un projet d'architecture, comment ça se passe ? Vous venez me voir, là je prends un projet privé, vous venez me voir avec un programme en disant je veux une maison dans laquelle, et c'est vous qui faites votre programme, je veux une maison dans laquelle il y aura ça, un salon, un ceci, un cela, tant de chambres, tant de choses, voilà. Et puis maintenant, selon votre sensibilité, si vous avez, vous êtes musicien, un espace pour un piano, vous êtes gymnaste, un espace, une salle, vous êtes ceci, cela, un billard, etc., etc. Et nous, on compose avec ça. Nous devons faire des espaces cohérents. Nous devons faire des espaces fonctionnels. Avant que ce soit beau, un projet doit être fonctionnel. Donc on fait tout ça, et puis après on doit travailler sur les façades. Mais quand vous allez nous dire, bien sûr certains vont s'accompagner de l'IA, c'est un outil qui est là. C'est comme vous journalistes, quand on vous dit faites un rapport, vous allez dans l'IA, vous allez taper, tac, tac. Mais à un moment, si 10 font, les choses vont revenir, donc vous devez améliorer. C'est comme l'outil informatique, vous ne dites pas, ça ne vous permet pas, vous permet peut-être d'aller plus vite, mais après vous composez avec cet outil. D'accord ? Et donc quand vous, client, vous allez me dire, non, je n'aime pas ça, faites-moi autre chose, vous allez être obligé de mettre la main à la pâte. Parce que c'est moi qui discute avec vous. Donc l'IA, c'est quelque chose de très très important qu'il ne faut pas nier. De toute manière, elle est là, il faut l'utiliser. D'accord ? Comme l'informatique est arrivée, on l'a utilisée. Vous savez, avant, on dessinait avec des rotrings. Hein ? On dessinait à la main avec des rotrings. Et puis il y a eu l'informatique, il y a eu le téléphone, il y a eu Internet. Les plans, on les envoyait par la poste, maintenant on les envoie par Internet. Donc on se greffe, on s'adapte à ces nouvelles technologies. Mais de là à dire qu'elles vont remplacer, que ça va nous permettre de tout faire, non. Parce que sinon, il suffira donc de former des gens à l'IA et puis il n'y a plus besoin d'architectes. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme si je disais qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de journalistes. Et puis, juste il y a pour nous dire, bon voilà, donne-nous toutes les informations. Et puis voilà, c'est exactement la même chose. Et je pense que si vous dites que l'IA va faire votre métier de journaliste, vous allez me dire non. On est d'accord. Exactement. On est d'accord.
Je voudrais rajouter juste quelques éléments, un petit élément, Président. Vous dites, quand on parle aujourd'hui d'architecture durable, il faut que les Africains cessent de croire que l'architecture durable vient de chez les autres. Parce que dans nos traditions, on a toujours appliqué de la durabilité. Et c'est pour ça que vous allez voir la case Kasséna au Burkina Faso vient d'être classée au patrimoine mondial. Parce que c'est une référence mondiale. Les gens partent de partout dans le monde pour venir voir ces femmes construire. Donc aujourd'hui, renforcer cette durabilité, c'est ça aussi, rentrer, faire un recours aux sources pour pouvoir s'abreuver à la source ancienne, apprendre de notre architecture identitaire. Et c'est pour ça que le président a parlé de la conférence avec la Fondation Rougerie. Mais on a également une série de conférences sur le patrimoine qui va rentrer justement, questionner notre architecture identitaire, notre architecture ancestrale, pour pouvoir tirer des éléments qui permettront d'améliorer l'architecture contemporaine.
C'est vrai. Et je vais prendre un exemple, toujours dans le même ordre d'idée. On a vu nos maisons en terre battue dans les villages. Les maisons en terre battue dans les villages, ou quand vous étiez dans la maison, quand vous cherchez, comme c'est très chaud, vous cherchez de la fraîcheur, vous allez à l'intérieur de la maison en terre battue. Mais maintenant, on a opposé construire en dur. Moi, quand j'étais jeune, on avait l'impression que quand on construit en dur, on est plus riche. Et quand on construit en terre battue, on est plus pauvre. Mais c'est vrai que les gens qui avaient le moins de moyens cherchaient des solutions pour avoir moins chaud, pour que ce soit plus aéré, etc. etc. Et aujourd'hui, nous avons des solutions comme la brique de terre. Mais la brique de terre, dans l'imaginaire collectif, est utilisée encore. Ça rappelle la brique de terre, la terre, voilà. Donc les gens ont encore du mal avec ça, mais c'est vrai qu'on a des solutions qui existent auxquelles on doit revenir, et déjà parce que ça va, c'est le coût, au niveau du coût, ça va coûter beaucoup moins cher. Il y a une jeune dame qui voulait parler.
Dernière question.
Je vais répondre, on prend.
Merci, merci, Président. Vous dites qu'il y a des individus en indélicatesse avec la justice. Pourquoi on ne considère pas ce que vous dites comme une tactique de dissuasion? Est-ce qu'il est possible de déterminer les noms et concernés par ces affaires?
Alors, moi, je vais répondre très clairement à votre question. Ce qui va être fait, et ce que nous avons décidé, c'est que à partir du moment où il y aura une décision, parce que vous savez très bien que quand nous portons plainte, la personne est supposée quand même être... innocente. Elle est présumée innocente. Donc on ne peut pas livrer en pâture comme ça des noms. Mais par contre...
On ne commente pas. On se dit simplement...
Non. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça ne sera pas efficace. Ce qui serait efficace, exactement comme on le fait les avocats, c'est de dire quand une personne est condamnée, justement, c'est de s'appuyer sur la presse et de faire des articles en disant que ces personnes ont été condamnées pour telle ou telle ou telle chose. Voilà. Mais donner les noms comme ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'utile. Maintenant, pour la question qui demandait si le métier... Nous ne vivons pas en autarcie. On vit au Cameroun. Voilà, on vit dans un environnement difficile et compliqué. Nous sommes dans un pays... pauvres, très endettés. Même si quand on se balade et qu'on voit certaines voitures, on peut se poser la question si nous sommes vraiment pauvres. Mais ce que je veux dire, c'est que on est comme toutes les professions, d'accord. Où il y a des personnes qui vont. On n'est pas pire que les autres professions. On est comme toutes les professions dans l'environnement dans lequel nous sommes. Mais justement, l'ordre. Parce qu'il y a des statistiques qui vous disent quand il y a eu les écroulements à Douala il y a 2 ans, il y a un article du journal Le Monde qui disait qu'il y avait simplement 2% des bâtiments construits au Cameroun qui passaient par des appels d'offres. Ça veut dire qu'ils ne passaient pas par des architectes. Elle vous a donné le nombre d'architectes que nous sommes, un architecte pour 100 000 habitants. Imaginez simplement que 50% de ces bâtiments soient faits par des architectes. Je ne vous parle même pas quand ça sera, parce que moi je sais qu'un jour ça sera, quand ce sera 100%, ce que ça va être. Donc on devrait vivre de notre art. Comme les journalistes devraient vivre de leur art, comme toutes les professions devraient vivre de leur métier. Et nous, l'ordre, c'est un de nos combats, justement, que le travail des architectes revienne aux architectes.
Effectivement, j'exhorte nos amis journalistes à nous aider davantage à relayer les informations à communiquer autour de l'architecture, parce qu'il faut dire que l'architecture, c'est une des c'est l'un des métiers vraiment pluridisciplinaires. Si vous attendez parler des architectes juste parce que vous avez vu qu'ils ont conçu des bâtiments, ça veut dire que vous risquez de vous retrouver en train d'abandonner une autre partie d'architectes qui, peut-être, eux, ils ont choisi de faire dans autre chose. Pour vous dire qu'en tant que journaliste, essayez un peu d'explorer. Il y a par exemple des journalistes qui ne font que la photographie, il y a des journalistes qui ont choisi d'être des architectes qui ont choisi d'être des photojournalistes. Il y a des architectes qui ne font que dans le patrimoine. Il y a des architectes qui deviennent même des journalistes. On a un confrère qui est à Balafon, il fait l'architecture, mais en même temps, il a des émissions à Balafon. Donc, l'architecture vraiment est pluridisciplinaire et essayer un peu d'explorer pour voir quels sont les autres champs dans lesquels les architectes se déploient.
Oui, qui sont enseignants, qui sont fonctionnaires, qui décident qui décident également de faire ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Je parlais, c'est-à-dire qu'être du côté du client. Sur un projet, il y a des architectes qui sont plutôt côté client, c'est-à-dire que c'est eux qui vous disent, ok, votre projet, voilà, il manque ceci, les... Donc voilà, l'architecte n'est pas simplement celui qui construit, Mais c'est vrai qu'on, c'est exactement comme dans les autres métiers, c'est-à-dire qu'on parle du médecin, on pense d'abord aux praticiens. Les Anglais ont justement cette phrase, c'est-à-dire que practitioner, c'est-à-dire qu'en fait on dit celui qui pratique, voilà, mais simplement qui pratique l'architecture. Mais il y en a d'autres qui pratiquent l'architecture de différentes façons. Une dernière question.
Est-ce que vous appréciez le projet de création de l'Ordre national des architectes d'intérieur? Comment vous prenez ça?
Alors, moi j'étais approché par j'étais approché par des architectes d'intérieur qui veulent créer un ordre. D'accord? Nous on n'a pas apprécié, Moi je discute très bien, et puis bon, il y a deux franges de ce côté-là. Il y a deux franges qui ne sont pas d'accord entre elles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un ordre professionnel est d'abord créé par une loi, donc il vous donne l'obligation d'utiliser ce professionnel dans tel domaine, d'accord ? Vous prenez l'ordre des médecins, on va dire que par exemple pour opérer, pour délivrer une ordonnance, pour faire ceci, il faut être médecin. L'ordre des pharmaciens, pour vendre un médicament, il faut être pharmacien. L'ordre des avocats, pour plaider dans la cour, il faut être avocat. L'ordre des architectes, pour faire un projet et déposer un permis de construire, il faut être architecte. Donc, c'est quelque chose qui vous donne l'obligation d'utiliser le professionnel. D'accord ? Dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, il n'existe aucun ordre professionnel d'architecte d'intérieur. Parce qu'il n'y a pas cette obligation d'utiliser l'architecte d'intérieur. Même si dans les hôtels, les musées, certaines boutiques, même à l'étranger, on utilise beaucoup d'architectes d'intérieur, mais il n'y a pas une obligation. Donc nous, notre position, on n'est pas là pour apprécier ou ne pas apprécier. Je veux dire qu'ils sont en train de mener un combat pour créer un ordre. Nous, ça ne nous gêne pas s'ils arrivent à leur fin.
Merci, chers amis journalistes. Et nous vous donnons rendez-vous du 5 au 10 mai au Palais des Congrès pour qu'ensemble nous puissions célébrer ce demi-siècle d'existence de l'Ordre national des architectes du Cameroun.
Ok, merci.